de tout à l'heure, mais peut-être qu'il y a deux, trois questions, remarques, commentaires. Je sais pas, sur la question de l'appropriation, sur la question des périmètres. Bon, cette chat était très claire, donc. Moi j'ai quand même une question du coup quand même, parce que la question de, effectivement, du travail en dehors des arènes, de la négo, de la formation consultation, ça pose quand même des questions d'articulation entre ce travail d'expertise et des institutions qui existent et qui ont un rôle bien défini. Donc on a croisé des entreprises effectivement qui étaient innovantes dans un dialogue avec les travailleurs, mais pour lesquelles ils court-circuitaient complètement les IRP. Donc comment, enfin, il y a aussi ce travail-là à mener, c'est-à-dire un travail au sein des instances qui existent. Mais Frédéric veut rajouter peut-être une question ou une remarque.
Oui, j'avais une question, parce que dans la liste des défis et enjeux, il y avait la transition écologique qui passait comme ça.
Ouais. Elle reviendra, elle reviendra.
Elle va revenir, mais j'aurais voulu t'entendre justement sur un petit peu plus d'avant sur cette question.
Oui, je suis passé vite, alors, encore une fois, parce que si je ne maîtrise pas toutes les initiatives qui sont en train de démarrer un peu partout. Il y a plein de CSE qui sont en train de lancer des choses. Clairement, la prise en compte des enjeux écologiques vient questionner aussi nos instances de dialogue social, parce qu'on peut lire ici ou là, je pense au manifeste travail, par exemple, qui a été publié il y a 2-3 ans, où on part souvent de l'hypothèse que la représentation des travailleurs permettrait de mieux prendre en compte les enjeux écologiques, et que si on renforçait la représentation des travailleurs, on aurait peut-être une meilleure appréhension de ces sujets. Mais c'est loin d'être certain, parce qu'il y a quand même des vrais arbitrages par moment à faire entre de l'activité économique qui va faire de l'emploi, qui va faire des salaires, et puis des choix qui vont être peut-être plus raisonnable sur le plan écologique et environnemental. Et ces sujets-là, aujourd'hui, sont difficiles à traiter. Donc ça poserait presque la question aussi de l'élargissement des arènes du dialogue. Comment faire entrer d'autres parties prenantes que d'avoir un dialogue presque exclusif entre les experts et les représentants du personnel, et comment ils peuvent intégrer dans leur compréhension des enjeux, des implications de l'activité économique, les effets sur d'autres parties prenantes. Donc ça questionne aussi très concrètement nos arènes de dialogue social.
Oui, moi je me retrouve tout à fait dans ce que tu dis. Hein. Est-ce que le territoire à déterminer ne serait pas le lieu, je ne dis pas idéal, mais qui a privilégié comme arène justement de dialogue, alors non pas social, mais carrément sociétal, parce que pourquoi les salariés auraient-ils la légitimité de dire ce qui est bon pour la transition écologique? On est tous des citoyens qui avons notre mot à dire par rapport à ça. Pourquoi privilégier les salariés d'une entreprise? D'une entreprise en plus.
Oui. Bon, là, l'expert, ce serait Bernard, hein, qui pourrait répondre sur le sujet plus que moi, parce que moi, j'ai pas travaillé sur le dialogue territorial lui-même. Mais effectivement, ces nouveaux espaces qu'on organise peuvent être aussi l'occasion de penser des formes multi-parties prenantes qui vont au-delà des salariés.
Bernard Gazier, tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet?
Je veux dire, oui, c'est que le territoire, le dialogue social territorial, est probablement le lieu le plus décevant de l'analyse du dialogue social. Donc on va prendre un candidat crevard et on va lui mettre toutes les charges nécessaires du futur. Je crois que c'est un peu plus compliqué, puisque précisément c'est l'occasion peut-être de lui donner une légitimité, un rôle et des leviers, mais pour l'instant ils ne sont pas prévus du tout.
À condition qu'on le dote des compétences de négociation. Parce que ça, pour le moment, ça n'existe pas. C'est un fantasme.
Juste ajouter compétences de négociation au niveau territorial, mais aussi volonté et capacité des acteurs de s'emparer de ce qui existe. Là, je pourrais reprendre ce qu'a écrit aussi Jacques, c'est-à-dire quand ils ont une représentation territoriale, les syndicats, est-ce qu'ils ont envie de lui donner force sur des sujets comme ça? C'est pas certain, en tout cas. C'est vrai que même les nouvelles règles de représentativité au niveau territorial, malheureusement, on a fait des commissions, on a fait un mode de représentation, mais ça n'aboutit pas à de l'action collective qui prenne en compte ce type de sujets sociétaux de toute première importance. Et dans les reçus qu'on travaille sur la restructuration, à chaque fois qu'a été mis en place d'autres parties prenantes en dehors de l'entreprise, c'est pas simple, hein, pour avoir étudié, je ne sais plus, c'était Kodak, qui nous disait, bon, oui, au territoire, c'est important, là, du côté de ce que les charges sur sous, je ne sais pas, mais franchement, ils ne savent pas y faire, les gars du territoire. Nous, on a des syndicats verticaux, hein, les filières, on a une fédération, machin, on sait travailler, donc pas peine de perdre notre temps. Donc c'est...
Ouais, ouais. Mais d'une manière générale, ça va dans le sens de cette multipolarisation du dialogue social avec on crée le territoire. Là, je faisais référence, là aussi je suis passé vite, mais au comité stratégique de filière. Donc à chaque fois qu'on a un besoin, on crée sur des périmètres différents des espaces. Mais effectivement, les organisations syndicales ne peuvent pas tout prioriser, donc elles choisissent et elles restent sur les instances les plus classiques dans leurs entreprises, etc. Et donc ces nouveaux espaces, elles ont du mal à les investir. Et puis ça pose tout un tas de questions où il faudrait réfléchir, non pas simplement à chacun de ces nouveaux espaces en lui-même, mais à l'articulation entre ces espaces. Comment ça dialogue entre l'instance territoriale, l'instance entreprise, la branche, le territoire. Et donc, c'est en fait, on a tendance à les penser de manière isolée. C'est comme plein de petits pôles séparés. En fait, probablement que la clé, c'est de penser à l'articulation et aux interactions entre ces instances.
Non, je voulais juste rajouter un mot par rapport à ce que tu disais. Donc, Nicolas Blanche, secrétaire national à la CFE-CGC, ça s'articule quand même. C'est-à-dire que les logiques de CSF, c'est plus des logiques de pilotage au niveau national, c'est-à-dire que c'est des engagements, c'est plus de la planification. On s'oriente vraiment sur des logiques de planification et de réflexion globale. Après, et les acteurs locaux restent, chacun est sur son périmètre. Il y a vraiment une logique, pour moi, ça s'articule. Après, au niveau territorial, c'est beaucoup plus complexe de faire intervenir des acteurs, etc. On voit les logiques de concertation citoyenne, etc., qui diluent le débat. Pour moi, ça le dilue. Et il faut que chaque acteur, dans l'entreprise, c'est les représentants du personnel qui doivent discuter ces questions-là, comment ils les intègrent dans leur logique. Voilà. Après, ça peut y avoir des discussions qui sont organisées par les directions, etc., au niveau d'un territoire. Mais pour moi, le dialogue social doit rester vraiment au niveau de l'entreprise. Et voilà. Après, il y a des pilotages, on parlera pas tout à l'heure, mais pour moi, il y a des articles.
Ok, merci. Emmanuel, t'as bien,
c'est pas suivant.
C'est dernière. Oui. Savoir qu'est-ce que c'est que l'entreprise.
Ouais. On y reviendra, je pense. Emmanuel Payet, puis après, je passerai au débat.
Je voulais.
Pas à la table ronde.
Et puis par ailleurs, en fait, c'est l'objet de la table ronde.
Ouais.
Le constat, il est juste, il me semble, il est bon. Avec les précisions qui viennent d'être apportées aussi sur le fait qu'il y a quand même une coordination du point de vue syndical. Si on regarde du point de vue des experts, en fait. Il y a une demande dans ces différents espaces un peu qui sortent du cadre habituel de l'expertise, et le premier signe qu'il y a une demande, c'est qu'en général, on vient nous chercher, on est sollicité dans des experts, alors soit par une confédération, soit par une fédération, soit par une organisation qui structure les syndicalistes dans la filière, mais on nous sollicite là-dessus, sauf que c'est pas prévu dans le code du travail, donc c'est pas financé, quoi. Ou alors c'est financé... C'est autofinancé.
Ah ouais, c'était ça, effectivement, le point sur le modèle économique de l'expertise, voilà. Qui ne colle pas avec tous ces enjeux. Il y a un vrai décalage. Ouais.
Il me semble que c'est l'objet de la table ronde d'après. Du coup, je
Merci pour cette introduction. Voilà. Un grand merci à Rémi.